Rébène.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Aujourd'hui, des visites au fin fond des âges. On visite le dépôt archéologique du centre départemental du Finistère, au Fou, et c'est la régisseuse du dépôt, Élodie Guézenec, qui nous sert de guide.
Le dépôt est constitué de plusieurs pièces pour répondre aux différentes exigences, aux différentes étapes du traitement du mobilier.
Qu'est-ce que vous faites ici, par exemple, vous ?
Alors ici, c'est le bureau du régisseur des collections archéologiques. C'est l'une des dernières étapes du traitement du mobilier. C'est ici que le mobilier arrive, qu'il peut être nettoyé. Donc ici, par exemple, on a sous les yeux, ce sont des pilettes d'hypocauste. Ce sont des éléments architecturaux qui proviennent d'une villa périurbaine à Quimper. Au niveau de, donc le lieu dit, c'est Rosavel, qui a été fouillé en 1975. Et j'ai ressorti des caisses qui contenaient ces pilettes.
Donc, alors les pilettes, ça donne des petits carrés de pierre, en fait, mais qui étaient empilés, je suppose, pour faire des piliers, c'est ça ?
C'est des carrés de terre cuite qui servaient, en fait, d'éléments architecturaux pour constituer le soubassement d'un plancher chauffant, en fait. Donc ça servait pour les thermes. Donc une fois qu'on ouvre les caisses, il faut procéder au nettoyage du mobilier. Donc ici, c'est un dépoussiérage pour que le mobilier soit propre quand il rentre dans le dépôt.
Et on dépoussière à la main ou on a un petit aspirateur ?
J'ai un petit pinceau parce qu'il faut s'adapter en fait aux matériaux. Ici, on voit que les pilettes sont recouvertes d'une couche de mortier. Donc voilà ce qu'il en reste. Et la couche de mortier qui est dessus est relativement fragile. Donc on essaie de la conserver. C'est pourquoi je ne les lave pas à l'eau et à la brosse à dents.
Mais ça pourrait arriver, ça ?
Pas pour ce type de matériaux. On nettoie à l'eau et à la brosse à dents davantage pour des céramiques qui sont solides, en faisant attention qu'il n'y ait pas de traces de peinture, que la céramique soit bien cuite notamment. Donc il faut vraiment faire attention, c'est du cas par cas. Ensuite, une fois qu'ils sont nettoyés, pesés, on les compte, le nombre de restes et on va pouvoir les reconditionner. Donc, c'est-à-dire les protéger dans un sac plastique qui est neutre, qui ne va pas influencer, engager une dégradation. Puis, on va les recouvrir de mousse de polyéthylène pour les protéger ensuite. Et on va les placer dans des caisses rigides qui, elles, seront placées dans le dépôt.
D'accord. Et après, donc, on va les ranger plus loin.
Alors, absolument.
Donc, c'est là qu'on va, c'est ça ?
Alors, on va...
Alors, là, la pièce, elle fait... Bon, la pièce où on était, elle n'est pas très grande, quoi. Elle fait, je sais pas... 3 mètres sur 3, on va dire,
un peu près.
Un peu plus, peut-être, ouais. Ah, alors là, c'est un peu plus grand, déjà.
Ça fait toujours partie du dépôt, c'est la salle d'études. C'est ici que sont accueillies toutes les personnes qui veulent consulter du mobilier en provenance du dépôt.
Est-ce qu'on a le droit de venir dans le dépôt ?
Non, en fait, le dépôt n'est pas accessible au grand public. Ils sont soumis, en fait, à une demande auprès du conservateur régional d'archéologie, au service régional d'archéologie. Il va devoir justifier, préciser son thème d'étude, la durée de l'étude et le mobilier qu'il veut voir. Donc viennent ici les responsables d'opérations qui sont autorisés, que ce soit des diagnostics, des fouilles, des prospections. On va recevoir aussi les spécialistes des différents types de matériaux qui veulent rédiger des articles ou diverses études. On va recevoir aussi des étudiants dans le cadre de leurs travaux universitaires. On va aussi recevoir des chargés d'exposition, des conservateurs pour présentation au public.
Vous savez combien de personnes qui passent dans le dépôt du Finistère à peu près chaque année ?
Une centaine de personnes. Après, c'est sur des durées diverses. Certains vont juste venir pour localiser du mobilier, si c'est ici, si c'est pas ici, pour essayer de quantifier pour une étude future. D'autres vont véritablement étudier le mobilier, comme la céramique, pour faire des comparaisons avec ce qu'ils ont pu voir ailleurs, dans d'autres sites. D'autres pour préparer des expositions. Donc, c'est vraiment divers. Donc,
Certains viennent souvent, puis d'autres une seule fois, en fait.
Quoi. Absolument, absolument. D'autres vont venir pour travailler. On a aussi les opérateurs qui viennent, les opérateurs d'archéologie préventive, qui peuvent venir travailler ici. Donc, un régisseur, en fait, il sort rarement des murs. Ça peut arriver, hein, par exemple, pour un prélèvement sur in situ. Si on a, par exemple, une céramique écrasée, pour faciliter son étude, on peut devoir faire un prélèvement en motte, c'est-à-dire prendre l'ensemble de la céramique et la placer dans une caisse. La caisse va être déposée au dépôt pour étude plus tard par le responsable d'opération. Donc ça, c'est 1% du temps. Le reste du temps, c'est vrai qu'on est dans le dépôt en tant que régisseur, mais on n'est jamais dans une bulle. Il y a toujours du monde qui passe. Et ce métier, c'est une transition entre les différents acteurs de l'archéologie, le service régional de l'archéologie, le centre départemental de l'archéologie, les universités, les opérateurs d'archéologie préventive, les musées et centres d'interprétation. Donc c'est vraiment très enrichissant, c'est de l'émulation en permanence.
Et c'est le seul dépôt d'archéologie du Finistère, celui du Fou ?
Oui, absolument. Donc ici arrive le mobilier en provenance donc, du département, que ce soit donc, des fouilles préventives menées par le service départemental d'archéologie ou par les opérateurs d'archéologie préventive, les opérations issues de prospection aussi, donc par les prospecteurs qui arrivent ici.
Même quand ils ne travaillent pas pour le département, en fait.
Oui, absolument. Les prospecteurs, souvent, sont bénévoles, mais très bien formés à l'archéologie. Ils ont une excellente maîtrise d'un territoire et ils sont vraiment indispensables à notre connaissance, puisqu'ils sont nombreux, ils sont sur tout le territoire. Ils interviennent de façon régulière et vraiment indispensable. Et ils connaissent les codes, ils connaissent parfaitement les codes liés donc au traitement du mobilier. Donc, ils sont aussi amenés à venir ici régulièrement.
Est-ce que des archéologues privés, puisqu'il en existe maintenant du département, pourraient aussi déposer des objets ici ?
C'est obligatoire en fait. Si donc c'est une opération qui est organisée dans le cadre légal, comme le sont les opérations d'archéologie préventive ou les prospections, le mobilier est étudié, absolument. Et une fois qu'il est étudié, il est donc inventorié, il est normalisé, mis en caisse, et il doit arriver ici à la suite de son étude.
Est-ce qu'il pourrait y avoir du mobilier, de par son importance ou je ne sais pour quelle raison, qui irait dans un dépôt archéologique d'envergure, je ne sais pas, régionale ou nationale ? Ça arrive, ça ?
Oui, ça arrive. C'est dans le cadre de prêts, notamment. Ici, transite aussi du mobilier le temps d'une étude. Mais c'est temporaire, ce sont des dépôts temporaires. On est responsable du mobilier le temps qu'il est là, comme quand on fait des prêts, la structure qui accueille le mobilier en est responsable. Mais il revient toujours où il doit être. Après, on peut faire des découvertes. Juste ici, derrière vous, vous avez une caisse que j'ai découverte récemment, donc cette semaine, et qui provient de la zone de quarantaine.
Et la zone de quarantaine, c'est quoi ça ?
Alors, c'est une pièce dans laquelle on met les caisses en attente de traitement. On va pouvoir aller voir si vous voulez. Donc là-dedans, j'y ai trouvé du mobilier en provenance de Plusquélec, donc c'est dans les Côtes d'Armor. Donc ça, c'est référencé. Le service régional de l'archéologie est prévenu et il va prendre en charge le mobilier. Je sais que le mobilier vient de Plusquélec. On a retrouvé l'affiche identité de ce mobilier. Ça, c'est vraiment très important. Donc il va pouvoir repartir dans les Côtes d'Armor en espérant que personne ne l'a cherché avant quoi.
Mais c'est plutôt de l'antique à Plusquélec, enfin, c'est quoi
c'est Ça, c'est du mésolithique.
Ah ouais, donc c'est vraiment du préhistorique.
Quoi. Oui, c'est une prospection qui a été réalisée et donc elle a produit le rapport de fouille. Et c'est grâce à ce rapport de fouille auquel j'ai pu accéder que j'ai pu identifier le mobilier.
Et alors dans cette pièce de passage, donc, alors là je vois qu'il y a des grosses malles en bois là par exemple. Qu'est-ce que c'est ces grosses malles ?
Alors ça c'est un autre élément qui est en charge de la régie et du mobilier archéologique, c'est la documentation issue des fouilles archéologiques. Là nous avons des diapositives, donc ça fait partie des archives de fouilles. C'est en fait avec le mobilier archéologique les seuls éléments qui restent après une fouille archéologique.
Donc ce sont les archéologues de l'époque qui ont pris des diapos, quoi, en fait, d'un chantier.
Oui, absolument. Il y a des diapos, mais il y a aussi des fiches unitaires selon le mobilier. Et tout ça fait partie de ce qui est important de conserver, puisque fouiller, c'est détruire. Donc il importe d'avoir le maximum d'éléments d'enregistrement pour pouvoir étudier le site le plus longtemps possible.
Et des fiches comme ça, manuscrites ou des diapos, ça ne se fait plus, je suppose, maintenant tout est numérisé
Oui, absolument. Aujourd'hui, on prend davantage de précautions avec le numérique. Donc tout ça va être enregistré et numérisé pour pérenniser tout ça. Et ça, c'est impérativement à faire. Il y a des trésors là-dedans qui sont oubliés, qui sont en sommeil et dont il faudra s'occuper.
Et sinon, je vois aussi qu'il y a des instruments de mesure, des balances, des microscopes. Ça sert à quoi, ça ?
Alors, c'est du matériel qui est mis à disposition des chercheurs et de ceux qui veulent étudier le mobilier. Il y a des balances pour peser le mobilier. Il y a des microscopes pour l'étudier de plus près. Il y a des lampes aussi. Du matériel informatique. Bref, on met en œuvre ce qu'il faut pour que le chercheur soit en autonomie et puisse procéder au mieux à son étude.
Alors ensuite, donc là, c'était une pièce, donc, on va dire, de passage, avec une porte ouverte sur l'extérieur. Mmh. Après, je ne sais pas si c'est le cas des autres pièces.
Alors là, vous avez raison, parce qu'ici, en fait, c'est le quai de déchargement qui fait partie du dépôt aussi. C'est à partir de là que les opérateurs et les prospecteurs peuvent venir décharger le mobilier. Parce que eux, le mobilier qu'ils ont découvert est déjà étudié, reconditionné et en caisse. Donc le service régional de l'archéologie doit procéder à la normalisation suivant les critères qu'il a imposés, de voir si tout est exact. Et une fois que c'est validé, toutes ces caisses rentrent en dépôt.
Donc là, vous n'avez pas à le conditionner, ce mobilier-là ?
Non, absolument pas. Les opérateurs s'en sont déjà chargés et le font très bien. Donc il n'y a rien à refaire.
Alors là, je vois par exemple qu'il y a des seaux de terre. Enfin, on dirait des seaux de terre, mais je suppose que c'est plus compliqué que ça.
Alors voilà, donc ça, par exemple, ça ne rentre pas en dépôt. C'est de la terre qui est brute. Il va falloir la tamiser. Donc la passer dans des petits tamis. Et par contre, les refus de tamis, donc ce qui va rester à l'issue de cette phase, va pouvoir rentrer dans le dépôt. Donc pour l'instant, ça n'a pas été étudié, c'est en attente.
C'est pas vous qui allez vous en occuper, c'est
non.
Les archéologues.
Absolument, c'est le responsable d'opération ou les techniciens qui sont associés à cette opération qui vont s'en charger.
Vous, en fait, vous traitez vous conditionnez les objets, lesquels alors, en fait ?
Alors, une de mes missions principales, c'est de résorber le passif, en fait. Ça va être toutes les opérations qui ont été faites depuis les années 70, majoritairement, donc ne répondent pas aux normes actuelles imposées par le service régional d'archéologie. Et donc, il va falloir procéder à l'inventaire, à toutes les opérations liées à l'inventaire, avant de pouvoir les mettre en dépôt.
C'est vous, c'est pas les archéologues qui ont fouillé ou qui ont trouvé les mobiliers
Non, 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 ça c'est notre travail. Et c'est très enrichissant, puisqu'en fait, ça peut parfois présenter l'aspect d'une enquête policière, puisqu'il faut retrouver tous les éléments inhérents à une fouille. Et parfois, il faut retrouver le nom de la commune, du lieu-dit, du responsable d'opération, l'année. Il faut du coup varier les supports documentaires, parce qu'il n'y a pas forcément de rapport de fouille disponible. Ou parfois, il fait une page, deux pages dans les années 70... La professionnalisation de l'archéologie n'en était qu'à ses débuts, donc il n'y avait pas de normalisation.
Et puis l'archéologue est aussi bien n'est plus en vie aussi.
Oui, c'est vrai, ça peut arriver. Ou il est à la retraite.
Et qu'est-ce que vous appelez normalisation, ça consiste en quoi alors ?
Alors la normalisation, donc ça repose sur un ensemble de critères qui donc nous est imposé par le service régional de l'archéologie à nous et à tous les dépôts de la région. Pour favoriser la recherche du mobilier et garantir sa bonne conservation. Donc il y a tout un ensemble de critères à respecter, qui va de la conservation préventive jusqu'au bac de conditionnement et à la façon de ranger le mobilier dans le dépôt.
Et puis aussi à la façon d'inscrire, j'imagine, ce que c'est aussi
Oui, absolument. Il faut que tous les renseignements figurent sur le mobilier. Donc ici, devant nous, on a des caisses qui ont été normalisées par Margot Lenné, donc qui était chargée du reconditionnement. Et on voit que chaque élément mobilier a une fiche d'identité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc une petite fiche qui est mise dans un sac plastique avec sa carte d'identité, qui est reproduite sur un sac plastique et qu'on retrouve encore sur la caisse.
Et alors, en gros, il y a le lieu, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Il y a le numéro d'entité archéologique, c'est le numéro du site, qui est composé des deux numéros du département. Ensuite, les trois chiffres qui suivent sont le numéro de la commune, et les quatre derniers chiffres sont associés au numéro du site. Voilà, donc c'est un peu sa carte d'identité, mais on va ajouter d'autres éléments, comme le nom, proprement parlé, de la commune.
Là, c'est la Roche-Maurice.
La Roche-Maurice. Donc le site, donc le château de Roquemaurvan, le numéro d'arrêté, donc ça c'est le numéro officiel de la fouille de cette année-là, le contexte, c'est une fouille programmée, le nom du responsable d'opération, qui est Ronan Perennec, qui travaille pour le Centre départemental d'archéologie du Finistère. Ensuite, on va apposer un nombre total de caisses et les unités stratigraphiques concernées, le type de mobilier et d'éventuelles observations.
Mais on ne dit pas ce que c'est. En fait, là aussi bien, on ne sait pas trop ce que c'est, d'ailleurs.
Si, sur le type de mobilier, il est écrit de la faune. Donc, on va avoir des vestiges osseux et qui ont été comptabilisés, pesés par Margot Lenné. Et du coup...
Ça a l'air des gros animaux, en plus.
Ah oui, en général, on a la triade, c'est du bœuf, des ovicaprinés et du porc.
Ça c'est de la cuisine, quoi.
Voilà, absolument. Oui, oui. Mais ça, c'est les vestiges qu'on voit. C'est les plus gros, donc on a souvent cette triade, mais l'intérêt justement de tamiser de la terre fait qu'on peut trouver des vestiges d'animaux plus petits et de poissons notamment. Donc c'est complémentaire.
Donc toutes ces caisses qui sont ici dans cette salle de transit, enfin d'études, ça veut dire qu'elles vont être étudiées bientôt en fait, ou alors elles vont être rangées plus loin, non ?
Elles vont être étudiées, conditionnées avant de rentrer en dépôt.
Et alors après il y a le dépôt, non ? C'est ça ? Où il y a encore d'autres salles intermédiaires ?
C'est toujours partie du dépôt. Là, on est dans le laboratoire, c'est là qu'on procède au lavage, au dépoussiérage du mobilier. Suivant le type de mobilier auquel on a affaire, hein, comme je vous disais, on met toujours des rappels à disposition des chercheurs pour savoir comment procéder. Donc le mobilier est nettoyé suivant ses caractéristiques, puis mis à sécher sur les clayettes plusieurs jours. Et à cet effet, on va observer le processus de séchage pour vérifier qu'il n'y a pas de craquelement, qu'il n'y a pas de fissures qui apparaissent, pour que ce soit bien fait, quoi.
Surtout si c'est de la céramique, non ? C'est quoi le plus fragile, en fait, à nettoyer, enfin à faire sécher ?
La céramique, c'est vrai qu'il faut faire attention à la céramique qui est mal cuite, qui fond, aux éléments qui sont peints, comme je vous le disais. Après, il y a des éléments pour lesquels il vaut mieux prendre plus de précautions, comme les enduits peints. Je préfère m'en tenir à un dépoussiérage. Et éventuellement, si on a vraiment un doute, on peut contacter des spécialistes, soit le spécialiste du matériau en question, ou des laboratoires tels que Arcantique, qui peuvent nous préconiser l'attitude à adopter.
S'il y a par exemple de la matière organique, genre du cuir ou même du textile, ou les petites pommes de la ville des Vénèques du 7e siècle, là, ça ne se nettoie pas, ça, je suppose.
Non, il vaut mieux prendre plus de précautions et contacter directement les spécialistes dans ces cas-là.
Donc là, c'est vous qui travaillez dans le laboratoire essentiellement ?
Moi, mais aussi les responsables d'opérations et techniciens qui le requièrent. On est plusieurs à passer là. Dernièrement, c'est Anne Cargourlet qui est passée ici. On peut voir ici, ça c'est les vestiges. Donc Anne Cargourlet était responsable d'opérations sur les travaux de la D770, donc entre Ploudaniel et Saint-Éloi. Et elle a mis au jour une céramique antique, donc cette céramique. Donc,
c'est une sorte de cruche, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, en céramique comme une claire, donc qui était en fragments quand elle est arrivée ici. Et donc elle a procédé au nettoyage des fragments, puis au recollage. Et aujourd'hui, on voit le profil archéologique qu'elle présentait.
Elle n'a pas tout à fait tout récupéré, apparemment.
Non, mais on a quand même ce qu'on appelle un profil archéologique, c'est qu'on peut déterminer la forme complète, le profil, en fait.
Du coup, la date, sans doute.
Voilà, absolument. Elle s'est documentée auprès de ce qu'on appelle les typologies. Donc, ce sont des catalogues de référence qui ont été établis par des spécialistes en céramologie antique, qui se basent sur la constitution de la pâte, sur la forme et sur l'usage qui est fait de chaque céramique. Et pour la période antique, pour certains modèles, on peut dater à 10 ans près. Ça, c'est de la céramique qui a été retrouvée aussi par Anne Cargourlet sur ce chantier, qui est datée de l'âge du bronze. Et celle-ci, elle a fait le choix de ne pas la nettoyer pour des raisons de sécurité et de conservation du mobilier.
C'est marrant, on dirait qu'elle a brûlé cette céramique.
Oui, probablement, oui. On voit des petites aspérités et de la suie dessus.
Alors ça, c'est pareil, c'est sur la départementale 770, c'est ça ?
Oui, c'est une fouille préventive en amont de travaux qui sont réalisés sur la route. Alors le four, il sert à sécher le dessiquant, en fait. C'est un produit que je mets dans des micro-atmosphères, dans des petites boîtes hermétiques, pour que le métal reste en bon état, pour absorber l'humidité dans le métal. Donc une fois, il est orange quand je le mets avec le mobilier, et il verdit quand le temps passe et qu'il absorbe l'humidité, et je peux le réutiliser quand je le mets à sécher dans le four.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme processus pour améliorer la conservation des objets ?
La conservation, en fait, on y pense dès que l'objet sort du terrain. Ce qu'on appelle de la conservation préventive, c'est mettre en place toutes les mesures pour que l'objet ne souffre pas une fois qu'il a été sorti de son contexte initial. Donc il faut que la transition soit douce, essayer d'éviter des restaurations coûteuses. Donc on va trier le mobilier en fonction de sa composition. C'est ce qui est requis par le service régional d'archéologie, hein, la céramique avec la céramique, le verre avec le verre, le métal avec le métal. Et en fonction de ça, donc on adapte le traitement. Et donc il y a des objets qu'on dit inertes, mais qui ne sont pas. En fait, les objets ne sont jamais véritablement inertes, mais qui sont moins sensibles aux variations de température et aux variations d'hygrométrie, donc c'est-à-dire d'humidité relative. On pense notamment aux vestiges lithiques, aux lapidaires et à la céramique, au verre quand il est de bonne qualité. Ils sont moins sensibles à ces fluctuations, donc il va pouvoir être mis en dépôt. En revanche, le mobilier qui est jugé plus sensible, c'est-à-dire les métaux, les vestiges organiques, notamment quand ils sont gorgés d'eau, la tabletterie, ceux-là...
C'est quoi la tabletterie ?
Ce sont des vestiges osseux qui sont travaillés. Donc tous ces éléments-là sont plus sujets aux perturbations physico-chimiques. Donc on va les mettre dans des atmosphères contrôlées, où la température est fixe et le taux d'humidité relative aussi. On va stopper les processus de dégradation.
Le dépôt où on ne peut pas rentrer, enfin c'est le dépôt... Il y a plusieurs types de dépôts, je suppose, c'est ça ? Non ?
Non, c'est... Là, on peut voir la quarantaine. C'est là que sont déposées les caisses en attente de traitement.
Donc ça, c'est une pièce qui n'est pas spécialement chauffée, apparemment. Enfin, il n'y a pas spécialement de précautions qui sont prises, quand même, si ?
Si. Après, ça, c'est les responsables d'opération qui savent le contenu de leur caisse. Et pour le mobilier sensible, c'est directement déposé là où il doit être.
D'accord. Et sinon, dans la quarantaine, ils peuvent rester combien de temps, les mobiliers ?
C'est en attente de traitement, donc il n'y a pas de délai fixé.
Et dans les sacs poubelles, c'est quoi ? C'est de la terre aussi ?
Oui, absolument. Vous avez raison. C'est de la terre qui provient des fouilles de la Roche-Maurice, du château de la Roche-Maurice.
D'accord. Et ça, c'est la partie donc protégée dans le dépôt. Donc protégée, enfin le dépôt définitif, entre guillemets, le dispositif pour conserver, donc c'est quoi ?
En fait, le dépôt, c'est donc une pièce qui fait 200 mètres carrés. Donc, et qui est donc agrémenté d'étagères qui montent jusqu'à 2,50 m de hauteur, sur lesquelles on va déposer le mobilier moins sujet aux dégradations, le mobilier qui est moins sensible.
Donc là, il y a quand même une ventilation, il y a un maintien à température quand même ?
Oui. Après, il y a des écarts de température. Enfin, l'atmosphère n'est pas contrôlée, mais reste relativement stable et pour garantir la pérennité du mobilier.
Et le dépôt contrôlé, il est où ?
Enfin, c'est deux box en fait qui font partie de cet ensemble et donc ils sont indépendants avec des conditions différentes selon le type de mobilier de chaque box.
Dans le dépôt, finalement, les objets peuvent rester, on va dire, ad vitam aeternam.
Absolument, c'est le but, c'est de garantir le plus longtemps possible ce mobilier pour pouvoir en faire l'étude. Il n'est pas là, le mobilier n'est pas ici. Pour rester ici sur des étagères. Il est là pour être étudié.
Mais une fois qu'il aura été étudié, il ne sera quand même pas jeté.
Absolument pas, non. Il faut garder en tête que les études qui sont faites aujourd'hui peuvent très bien évoluer dans le temps et on peut trouver de nouvelles réponses à des questions, des nouvelles techniques, mais aussi des nouvelles études, parce qu'il y a du mobilier qui n'a jamais été étudié pour l'instant et qui peut être le sujet d'études dans quelques années.
Et est-ce que parfois le mobilier ressort pour des expositions éventuellement ?
Absolument, et c'est tout à fait souhaité. L'année dernière, ce sont le centre d'interprétation de Vorgium, l'ancienne abbaye de Landévennec et le port-musée de Douarnenez qui ont emprunté du mobilier. Et il faut au maximum offrir aux gens la possibilité de voir ce qui vient, leur histoire, de voir ce qui vient du département. Donc c'est vraiment une chance et il faut que ça se reproduise le plus souvent possible.
Mais vous ne pouvez pas tout garder, ou alors un jour vous n'aurez plus de place.
Après, ce sont les responsables d'opération qui font le choix de conserver ce qu'ils jugent pertinent à l'issue de leur fouille. Certains vont tout garder, d'autres vont faire des échantillonnages en mentionnant bien le pourcentage qui a été opéré. Donc ce sont des choix relatifs aux responsables d'opération.
Vous pouvez écouter les compléments de ce reportage et notamment la description de quelques objets archéologiques conservés au dépôt sur le site internet de la radio.